Allez, on commence notre deuxième session de notre étude à 1 Thessaloniciens. Et donc, c'est une épître, une lettre écrite à une église qui se trouve à Thessalonique. Et donc, je veux lire donc Acte chapitre 17, versets 1 à 5, pour avoir l'arrière-plan des commencements de cette église. Donc, Acte 17, et je commence au verset 1. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie, et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, et selon sa coutume, pendant trois sabbats, il discuta avec eux, d'après les Écritures, expliquant et établissant que Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les emmener vers le peuple. Donc voilà les circonstances, les commencements de cette église. Paul, selon la coutume, va dans la synagogue. Et vous avez remarqué, on ne va pas s'attarder là longtemps, mais ce qu'il y avait de plus important, c'est d'établir que Jésus-Christ, que Jésus, c'est bien le Christ. Et donc, il se servait bien sûr que de l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament n'existait pas encore. Donc, il se servait des prophéties et il établissait que Jésus était le Christ. Finalement, c'est qu'il y a un grand nombre de personnes grecques, autres que juifs, qui, eux, ont entendu le message et qui ont répondu à ce message à un tel point que les Juifs sont devenus jaloux de l'attention que recevait l'apôtre Paul et du succès. Hein, vous savez que le monde n'a pas changé, hein, on devient jaloux du succès des autres très facilement. Ben, c'était comme ça à l'époque. Et alors, on veut créer des ennuis et Paul et Silas n'ont pas pu rester trop longtemps là. Et nous avons vu il y a 15 jours, hein, quand on a commencé, on a vu que tellement leur séjour avait été court, que même ils avaient peur que ces chrétiens n'étaient pas encore bien établis, et que peut-être ils se décourageaient dans la foi et dans les difficultés. Alors ils avaient envoyé Timothée pour prendre des nouvelles, et puis finalement il est revenu avec de bonnes nouvelles, et Paul et Silas ont été rassurés que tout allait bien. Alors ce matin, nous allons continuer dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. Et le chapitre 1, nous allons prendre les versets 1 et 4. Donc 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1 et le verset 4. Mais je vais lire les quatre versets. Nous dit Paul, Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu, le Père et en Jésus-Christ, le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu notre Père, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Je leur ai dit, voilà, nous sommes venus, nous avons prêché, vous avez répondu. Alors je m'arrête déjà sur une expression dans le premier verset. Il dit l'Église des Thessaloniciens. L'église des Thessaloniciens. De nos jours, vous savez, si on circule, on trouve toutes sortes d'églises. Hein, des églises de ceci, de cela. Et si on n'est pas averti, c'est une grande confusion. On dit, mais c'est qui a la vérité, hein, c'est quelle qui est juste, hein, surtout que on a presque l'impression que chacune dit, c'est moi qui détiens toute la vérité, les autres, ils ont tort. Vous savez, déjà, si je dois me faire une idée de l'Église, qu'est-ce que l'Église ? Eh bien, ce n'est pas en regardant ce qui existe autour de moi et ce que j'ai vu qui doit me permettre de décider ce que c'est que l'Église, mais c'est de nous tourner dans la parole de Dieu. Hein. Parce que si je commence en fonction de mes expériences, en fonction de là où je mets les pieds et tout ça, je vais me faire toutes sortes d'idées de ce que c'est que l'Église. Hein, parce que tout le monde s'appelle chrétien, et pourtant ils ne font pas les choses de la même manière, et parfois on est même déçu. Donc au lieu de regarder à des mauvais échantillons, il vaut mieux regarder à un bon échantillon, et le seul bon, c'est dans la parole de Dieu. Hein. C'est pas en allant à l'hôpital et en voyant tous les malades qu'on se fait une idée sur la race humaine. Il vaut mieux aller voir des gens qui sont en bonne santé, et c'est là on se rend compte du potentiel de la race humaine. Hein, donc, pour l'Église, c'est bien de se tourner vers celle qui est mentionnée dans l'Écriture. Et l'Église de Thessalonique est une Église qui nous est recommandée. Hein. C'est une Église où il n'y a pas de critique, il n'y a que des bonnes choses. Et il leur dit, continuez et faites aller de mieux en mieux. Hein. Donc, c'est pour ça que nous voulons nous arrêter et prendre certainement plusieurs mois dans cette épître aux Thessaloniciens. Alors, l'Église des Thessaloniciens, bien, nous avons vu l'origine de l'Église. Hein, c'était problème de jalousie. Alors, ceux qui étaient attachés à la parole, à l'Évangile, eh bien, se sont retirés. Et puis, ils ont été s'installer dans un autre lieu. Ils ont quitté la synagogue. Et ils ont commencé à suivre l'Évangile tel qu'il leur avait été prêché par l'apôtre Paul. Remarquez le mot « église » déjà. Le mot « église », vous savez, courant tous les jours, si vous allez faire un sondage sur le trottoir, vous dites, pour vous, c'est quoi l'église ? Alors, chacun, en fonction de d'où il vient, il va dire, l'église, c'est l'église au centre-ville, là. C'est l'église. Donc, il va faire référence au bâtiment. Un autre, il va dire, mais l'Église, c'est le pape, et puis c'est tout ce qu'il y a derrière. C'est ça, l'Église. Et puis un autre va dire, l'Église, je ne sais pas, c'est les chrétiens. C'est là où ils se réunissent. Mais si nous regardons dans la parole de Dieu, le mot « Église » lui-même, le mot « Église » ne vient pas du grec, mais le mot grec, c'est « ecclesia », hein, d'où on a l'expression « ecclésiastique, hein, ecclésia, ecclésiastique, tout ce qui est en rapport avec l'Église. Hein, donc c'est ecclésia, il y a le préfixe ec, et puis ecclésia, qui veut dire ceux qui sont sortis de quelque chose, et ec, qui sont sortis de, sortis. Donc sortir et sortir de quelque chose. Donc l'Église, c'est une assemblée de personnes qui sont sortis d'un milieu pour en créer une nouvelle communauté. Hein, donc, c'est pas parce qu'ils sont nés là-dedans, c'est parce qu'ils sont sortis. Ils ont quitté quelque chose pour venir là. Le mot, c'est le mot qui a été choisi par Dieu pour exprimer ce que c'est. Donc, les gens ont des origines très différentes. Peu importe si je suis sorti de l'hindouisme, si je suis sorti de l'islam, si je suis sorti du catholicisme, si je suis sorti de l'athéisme, je suis sorti de rien du tout. Hein, je ne connaissais rien. Eh bien, peu importe où je sors du monde, où je sors d'un mode de vie, peu importe, la question c'est qu'on se retrouve ensemble avec le Seigneur. Et c'est ça qui est important. Et nous ne devons jamais oublier cela. Pas avec le pasteur, avec le Seigneur, avec Jésus-Christ. Hein. Les pasteurs, ça vient et ça part. Jésus-Christ demeure. Alors ici, il nous parle de l'Église des Thessaloniciens. nous remarquons que il ne parle pas de l'église de Jason, même si certainement que l'église se réunissait chez Jason, parce que c'est là où les gens ont voulu, ils ont été chercher Paul et Silas pour créer des histoires. Ils n'ont pas dit que c'est l'église de ceux qui avaient accompagné Jason lorsqu'il s'est fait arrêter, mais ils parlent de l'église des Thessaloniciens, c'est-à-dire des habitants de Thessalonique. Et c'est important parce que dans l'esprit de Dieu, il n'y a qu'une seule église à Thessalonique. Il se peut qu'ils se réunissaient à différents endroits. À l'époque, l'église n'avait pas des bâtiments encore, et donc ils n'avaient pas des lieux où ils se retrouvaient. Alors, ils se retrouvaient chez celui-là, chez un autre, celui qui avait un grand salon, ils se retrouvaient chez lui peut-être. Peu importe où ils se réunissaient, peu importe s'ils se réunissaient à plusieurs endroits, ce qu'ils nous disaient, c'est que c'est l'église de Thessalonique. C'est-à-dire, ce sont tous les habitants de Thessalonique qui sont attachés au Seigneur, qui ont quitté. Et lorsque nous regardons plus loin, dans ce même chapitre, par exemple au verset 9, il dit « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes comportés vis-à-vis de Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Abandonnant les idoles pour servir le Dieu vrai. Voilà la démarche qu'ils avaient fait. Ils avaient quitté leur pratique païenne pour s'attacher au Seigneur. Et c'est ça le message de l'évangile. Et c'est ça qui forme l'Église, c'est un ensemble de personnes, peu importe ce qu'ils ont quitté, ce qui importe c'est ce à quoi ils sont attachés, hein, Jésus-Christ. Et donc ce n'est pas le lieu qui définit, c'est pas le pasteur qui définit, c'est pas l'adresse qui définit, c'est le fait d'être attaché à Jésus-Christ. Et c'est très important de nous souvenir cela. Ce n'est pas le fait d'appartir à un certain mouvement, hein, mais c'est le fait d'être attaché à Jésus-Christ. Donc les chrétiens de Fréjus, si, dans l'esprit de Dieu, hein, si on voulait dire les choses, et s'ils pensaient aux chrétiens de Fréjus, eh bien, ils penseraient à des gens ici, des gens dans une autre assemblée, tous ceux qui aiment le Seigneur, qui lui appartiennent. Hein, peu importe sous quel clocher ils se réunissent. Ce qui importe, c'est qu'ils soient attachés à Jésus-Christ. Ce n'est pas tous ceux d'une église, ce n'est pas tous ceux d'une autre église, parce que dans une église, il y a toujours des croyants et puis il y a des non-croyants. Hein. Le bon berger connaît ses brebis et il sait qui sont celles qui l'appartiennent. Pour nous, aujourd'hui, la structure que nous donne la Bible concernant une église, elle est très simple. Hein, ce n'est pas une grande hiérarchie avec une tête qui s'appelle Père. Hein, notre seul Père, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Père. Hein, personne d'autre qu'on appelle Père. Et même Jésus a dit, n'appelez personne votre Père. Vous n'avez qu'un seul Père, Jésus-Christ. Hein, Père spirituel. Et puis, ce n'est pas une grande hiérarchie. Mais la Bible nous enseigne, et puis je vais aller rapidement là, parce que ce n'est pas le thème, mais je vais le dire rapidement. Mais c'est une structure très simple. Il y a un corps d'anciens, et puis un corps diaconal. Il y a un corps, c'est les anciens, il y a plusieurs termes qui sont employés dans la Bible. Il y a le terme pasteur, qui veut dire berger. Hein, et vous savez quelle est la fonction d'un berger, c'est de prendre soin des brebis. Hein. Et puis, il y a le terme évêque. Et le mot évêque dans l'évangile veut dire, la traduction du mot évêque, c'est aposcopos, ça veut dire le surveillant, celui qui surveille. Donc c'est aussi la fonction, hein, il surveille l'état spirituel de l'Église. Mais il ne remplace pas le Seigneur. Il ne fait que veiller. Et puis après, il y a l'expression ancien, un ancien. Et l'ancien, tout de suite, on a cette notion d'âge, de maturité. Hein. Et donc il y a un corps formé de ceux dont la fonction, hein, ce n'est pas un titre, C'est une fonction. La fonction du pasteur, c'est de nourrir. La fonction de l'évêque, c'est de surveiller, chercher, s'occuper de la santé de chacun. Et puis, les influences qui peuvent venir de l'extérieur et protéger. Et puis, il y a l'ancien, la maturité, celui qui apporte de la direction, mais par son expérience avec Dieu. C'est eux qui sont responsables pour la marche spirituelle d'un groupe d'enfants de Dieu. Mais eux répondent à Dieu. Et je pourrais donner plusieurs versets. Je les nomme seulement, ces références. Et puis après, vous pourrez réécouter l'enregistrement pour avoir cela, si vous voulez. Éphésiens 4, 11, c'est la référence du pasteur docteur. 1 Timothée 3, 1 à 2, pour celle d'évêque. Et puis, l'expression ancien, vous trouverez ça dans 1 Pierre 5, les versets 1 et 5. Alors, j'ai dit qu'il y a ce corps-là, puis après, il y a le corps diaconal. Le diaconal, ce sont les diacres et les diaconesses. Le mot diacre veut dire un ministre. Et le mot ministre veut dire un serviteur. De nos jours, on pense ministre, c'est les gens qui sont là-haut. Mais le mot à l'origine, le mot ministre veut dire un serviteur. Le mot diakonos, en grec, veut dire un serviteur. C'est-à-dire, c'est ceux qui servent l'Église. Donc, en fonction de la taille de l'Église, en fonction des besoins, on choisit des personnes à qui on donne des charges. Et ils sont là pour servir l'Église, non pas pour dominer l'Église. Faisons très attention. Et alors, rapidement, ces personnes, que ce soit le pasteur, les anciens et tout ça, ou que ce soit les diacres, lorsque vous lisez dans 1 Timothée 3, les qualifications sont à peu près pareilles. La seule différence entre l'ancien et le diacre, c'est que l'ancien a le don d'enseigner la parole. Il est capable de l'enseigner. Le diacre n'est pas forcément, mais ça n'empêche pas d'enseigner. Vous savez que dans Actes chapitre 6, que lorsqu'ils ont élu Étienne parmi d'autres, ou Philippe, ils sont devenus de grands prédicateurs. Étienne est mort parce qu'il parlait tellement bien. Et Philippe est devenu un évangéliste. Mais ce qui importe, et ce que je veux souligner ce matin, c'est qu'ils sont issus de l'Église. C'est des personnes, c'est pas qu'on importe, mais c'est des gens qu'on développe dans l'Église. Et puis qu'il y a des personnes qui ont un témoignage, qui ont une attitude, qui sont remplies de l'Esprit de Dieu et qui sont dans l'Église. C'est-à-dire, c'est pas que toi on va te nommer ancien, donc maintenant il faudra que tu sois spirituel. Non, il est déjà spirituel avant d'être nommé. C'est parce qu'il est spirituel, c'est parce qu'il est attaché au Seigneur, c'est parce qu'il aime la parole qu'il est choisi par l'Église pour être diacre. Quand ils ont choisi à Actes chapitre 6, ils ont choisi des diacres. Là, les apôtres leur disent, choisissez des hommes qui sont remplis de l'Esprit. Et de parmi les hommes qui sont remplis de l'Esprit, ils en ont choisi 6 qu'ils ont nommés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait que ça. Dans les 5000 et les 8000, il n'y avait pas que 6 qui étaient spirituels, mais de parmi ceux-là, ils en ont choisi 6. C'est la volonté de Dieu, c'est grâce à l'Église, que tous les membres de l'Église soient spirituels. Hommes et femmes, rien ne nous empêche. Qu'on ait un bon témoignage. Donc, ce que nous devons faire, c'est que tous, nous soyons consacrés à Dieu et que nous ayons un bon témoignage, c'est-à-dire je veux avoir une vie comme si j'étais diacre, ou diaconesse, ou comme si j'étais ancien. Je veux vivre cette vie-là. Qu'on me donne la charge ou pas, mais moi je veux vivre pour le Seigneur à 100%. C'est ça l'attitude de l'enfant de Dieu, et pas autrement. Et vous savez que si on avait une église remplie de gens consacrés, mais ça se saurait. remarquez dans ce verset 5, verset 4, hein, je dis, il dit, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. C'est-à-dire que vous avez été choisis. Dieu vous a choisis tous. Il ne s'adresse pas aux anciens dans cette. Il s'adresse à l'Église, donc à tous les membres. C'est pas que les anciens ou les diacres ou les pasteurs sont des élites. Il n'y a pas d'élite dans l'Église de Jésus-Christ. Il y a des charges différentes, hein, mais il n'y a pas d'élite. Vous regardez votre main, vous avez 5 doigts qui ne se ressemblent pas. Et je vous dis, lequel c'est le plus important? Vous dites, bon, je me sers du pouce et de l'index, certainement plus que les autres, mais pour moi, tous sont importants. Mais ils ont des fonctions différentes. Le pouce et l'index, ils ont des charges où ils sont sollicités tout le temps. Les autres, peut-être moins. Hein. Quand vous tenez un plateau, je crois que vous tenez avec tous les 5 doigts. Hein. Donc il y a un moment où on a besoin... Mais lequel est le plus important? Ça ne se discute pas. C'est qu'il soit disponible quand on a besoin de lui. Et dans une église, c'est que nous soyons tous là, peu importe combien je suis sollicité, ce qui importe, c'est que je suis là et en étant en état quand on a besoin de moi. Et donc, il dit, vous, en tant qu'église, il ne dit pas, certains parmi vous, vous êtes des élus, il dit, vous êtes tous élus de Dieu. Vous avez tous été choisis par Dieu pour être... pour former cette église. Et vous êtes tous, il est évident, la manière dont vous avez répondu à l'évangile, il est évident que vous êtes les bien-aimés de Dieu. Et ce qui a montré qu'ils étaient vraiment les bien-aimés de Dieu, c'est que eux, en entendant l'évangile, ils ont quitté les idoles, ils ont quitté leur vie passée pour se consacrer à une vie nouvelle. Hein? C'est pas le fait d'être plongé dans l'eau, par exemple, ou de se faire baptiser que tout d'un coup. Non, non. Il n'a pas dit, vous êtes baptisé, donc vous êtes... Non, non. Il dit, vous avez abandonné la vie passée, et maintenant vous êtes attaché à Dieu. C'est pour cela que je sais que Dieu a fait une œuvre dans votre vie. Hein? Et c'est important pour nous de comprendre cela. Donc, ils étaient... L'église de Thessalonique était une assemblée de personnes qui étaient sorties du monde, chacun de son monde, pour s'attacher à Dieu. Certains étaient issus du judaïsme, d'autres étaient issus du paganisme, d'autres philosophique, c'est de toutes sortes de choses. Mais peu importe quelle vie ils abandonnent, ce qui importe, c'est qu'ils adoptent cette nouvelle vie en Jésus-Christ. Pas celle d'une communauté, celle de Jésus-Christ. Hein. Il nous dit, dans ce verset 1, il nous dit, l'Église des Thessaloniciens, qui est en Dieu le Père et en Jésus-Christ. Une Église de Thessalonique, la ville, c'est la géographie, mais qui est en Dieu et qui est en Jésus-Christ. C'est ça aussi qui distingue. C'est pas le fait qu'elle ait un clocher, c'est pas le fait qu'elle ait du monde, c'est pas le fait qu'elle soit riche, c'est pas le fait qu'elle soit répandue dans le monde. Ce qui importe, c'est qu'elle soit en Dieu et en Jésus-Christ. C'est ça la vraie Église de Jésus-Christ. C'est pour ça, et je vais le dire comme ça pour que ça soit clair, je ne suis pas en train de parler de l'église baptiste. Hein, même si j'ai baptisé, je ne suis pas en train de parler de l'église baptiste, ça c'est autre chose. L'église baptiste n'est jamais mentionnée dans la Bible, tandis que l'église de Jésus-Christ, elle est mentionnée dans la Bible. Hein. J'espère que nous sommes inclus dans cette église-là. Hein, c'est mon désir, j'ai cette conviction, mais ce n'est pas restreint à cela. Hein. Il y a beaucoup d'autres frères et sœurs dans ce monde. Ne l'oublions pas. Alors il nous dit que nous sommes, et lorsque je veux regarder et lire rapidement dans Romains chapitre 12, il nous parle de l'Église, et c'est cette définition, Romains chapitre 12, et je vais lire uniquement les versets 4 et 5. Il parle de l'Église, et au verset 4, il nous dit, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Alors, il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect, on ne se ressemble pas, on est tous différents, on a tous des origines différentes, tout cela. Donc il y a une variété extrême dans la pensée de Dieu pour l'Église. Et puis d'un autre côté, eh bien, il nous dit, mais nous sommes tous un en Jésus-Christ. Alors nous sommes variés par nos origines, mais nous sommes un par notre présence en Jésus-Christ. Donc variété et union. En fait, je dirais plus que union, je dirais unité. Union, vous prenez 10 crayons de couleurs différentes, et puis vous mettez un élastique autour, vous avez une union de crayons. Mais quand vous prenez et vous en faites un seul crayon, alors là, c'est l'unité. C'est la différence. Donc, le mot unité, il faut comprendre la pensée de Dieu. Et c'est un peu différent. C'est difficile pour nous de comprendre ce que veut dire unité chez Dieu. Pour nous, ça veut dire que, c'est par exemple le mariage. La Bible, par exemple, parle du mariage chrétien. Il parle de deux personnes, un homme et une femme, et dit les deux deviennent un. Et ça fait joli. Mais si vous regardez avec vos yeux, eh bien, vous voyez toujours un homme et une femme. Et qui pensent différemment. Et parfois, ils ne s'entendent pas. Et en même temps, il nous dit que dans l'Esprit de Dieu, ils sont devenus un. Parce que pour nous, on a l'impression que devenir un, ça veut dire que... Et il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de différence, il n'y a plus rien, on ne voit qu'un seul. Si c'est comme ça, alors l'Église, c'est pas ça. Parce que vous rentrez dans une église, vous regardez, vous voyez, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Pourtant, vous dites, mais Dieu, il dit qu'on est un. Oui, c'est ça la difficulté que l'être humain, parce que l'être humain, il ne sait pas créer ça. S'il n'y a que Dieu qui crée ça, c'est qu'on peut être varié, chacun garder son identité, garder chacun sa particularité, et en même temps être un. Et une même pensée. Ça, c'est une chose que Dieu a inventée et que les hommes ne savent pas faire et ne peuvent pas faire. Le seul moyen pour l'homme de faire une unité, par exemple, il ramasse plein de jeunes hommes, il leur donne tous la même tenue et puis ils répondent tous aux mêmes ordres et là, on a une unité. Ça, c'est ce que les hommes arrivent à faire. Mais ce que Dieu fait, il prend quelque chose où la variété reste. Il nous dit dans la Bible, et Jésus l'a dit, il a dit, moi et le Père, nous sommes un. Et puis il y a des gens qui disent, mais comment un? Il y en a un qui parle, il y en a un qui prie à l'autre, il y en a un qui dit, moi je fais la volonté de l'autre, et puis vous dites qu'ils sont un. Ça va pas, non, vous êtes... Il dit, mais t'as rien compris. Parce que tu veux réduire Dieu à ton intelligence. Après, tu as un petit Dieu. Si la vie devait se réduire à ce que je comprends, vous savez, on serait encore en train de, avec des cailloux, en train de casser les noix et pour se faire un repas. Heureusement que je peux profiter et utiliser des choses que je ne comprends pas. Tous ces gens qui se baladent avec des téléphones portables n'ont aucune idée comment ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne. Et comment vous rappelez les... Je ne sais pas si vous voyez là qui sont trop jeunes pour se souvenir des premiers portables. Les premiers portables qu'on a eus, c'était gros comme ça. On le portait dans une sacoche. Et maintenant, c'est tout petit. Et ça en fait plus qu'un ordinateur de l'époque. Est-ce que je comprends? Mais ça ne m'empêche pas de m'en servir. Pourquoi on ne ferait pas la même chose avec Dieu? Je ne le comprends pas. Mais ce qui est certain, c'est que ça fonctionne. Ça fait des siècles que ce monde tourne. Ça fait des siècles que ça marche. Soyons assez pragmatiques pour dire, mais je ne comprends pas Dieu, mais ça marche. Vous vous tournez vers faire vers les démons et tout ça, et vous allez voir la destruction que ça fait. Ça marche pas. Ça fait que des dégâts. Ça rend fou. Vous allez prendre, suivre une politique à fond et vous avez de gros problèmes. Mais vous suivez Dieu et ça met de l'ordre dans la vie. Eh bien, moi, je ne comprends pas. Je suis ravi de ce que mon Dieu dépasse mon intelligence. Et même l'intelligence du plus intelligent des hommes. Heureusement pour nous. Donc, c'est, tout ça, j'ai dit, c'est pour souligner le fait, le mot unité, tel que Dieu comprend. Hein. C'est que c'est le fait, tout en préservant la variété, tout en préservant la diversité, on peut être uni. C'est-à-dire qu'on va dans le même sens. Je me rappelle une fois, à Saint-Denis, il fallait amener un piano dans la maison. Mais bon, l'entrée était telle qu'il fallait tourner par-ci, tourner par-là, et c'était très étroit. Et c'était pas facile. Ce piano-là, on s'est demandé si jamais on va le rentrer. Et puis en plus, pour rendre la chose difficile, non seulement le piano était très lourd, parce que c'était un cadre en fonte, donc c'est un piano très lourd, il fallait au minimum 4 personnes pour soulever, pour que ça bouge, mais en plus, quand j'ai demandé de l'aide, j'ai eu des gens, il y en a qui parlaient l'anglais mais qui ne parlaient pas français, il y en a qui parlaient français mais qui ne parlaient pas arabe, il y en a qui parlaient arabe mais qui ne parlaient ni l'anglais ni le français, et on avait une équipe comme ça. Et il faut faire rentrer un piano dans la maison par une porte qui ne s'y prête pas. Mais pour réduire le suspense, là, on a réussi. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que tout le monde comprenne que c'est le piano, il doit aller de là à là. Après, pour vous rassurer, on l'a mis comme ça, on a passé la porte. Après, on l'a renversé comme ça, on a passé par l'autre porte. Et puis après, on l'a renversé comme ça, on a fait tout avec. C'est passé. Je vous pose la question. Vous croyez qu'il y avait unité? Il y avait variété, ça c'est sûr. Diversité, alors là c'est sûr. Il y avait des gens qui parlaient l'arabe, des gens qui parlaient français, des gens qui parlaient anglais. J'étais le seul qui parlait les trois langues. Heureusement. Et bien là, la chose c'est qu'on a réussi. Pourquoi? Parce que tout le monde a travaillé dans le même sens. Même s'ils étaient très variés. Dans l'Église de Jésus-Christ, il est possible d'avoir l'unité dans la variété. Parce que c'est ça qui étonne le monde. Le monde, il croit qu'il faut tous penser pareil pour pouvoir faire quelque chose ensemble. Il pense qu'on doit être tous de la même origine. On doit tous être... Dieu dit, moi, je veux démontrer que je fais les choses autrement. Je prends la variété et je vais... Et l'Église de Jésus-Christ, telle que Dieu l'a conçue, c'était une Église composée de gens très variés, qui viennent avec des expériences très variées, mais qui veulent faire une œuvre, suivre un chemin et aller vers une seule personne, Jésus-Christ. Donc la première chose que nous voulons souligner, c'est que l'Église, eh bien, c'est son unité. C'est ça qu'on doit rechercher. Ou est-ce que c'est toujours vrai? Non, c'est parce qu'on a affaire avec des êtres humains. C'est pas toujours... Mais c'est ça vers lequel on veut tendre. Ça, c'est la pensée de Christ. Et c'est vers cela que nous devons tendre. C'est chercher toujours l'intérêt de Christ, pas le mien. Hein, si on est en train de se disputer parce que là, il veut le mur rose et l'autre, il veut bleu et l'autre, il veut... beige. Et si on est en train de se disputer pour ça, alors là, on a tous tort. Mais si on veut que l'Église se remplisse de personnes dont la vie est transformée, alors ça c'est autre chose. Là on est en train de penser comme Dieu pense. Hein? Alors premièrement, Jésus a parlé de sa relation avec le Père. Il a dit, moi et le Père nous sommes un. Il dit, moi je suis dans le Père et le Père est en moi. Écoutez, essayez de représenter ça par un dessin. Je ne sais pas comment vous allez faire. Pour dire que l'œuf est dans la bouteille et la bouteille dans l'œuf. Vous ne pouvez pas le faire. À moins que il soit identique. Mais il dit, voilà, je suis dans le Père et le Père est en moi. Et puis il dit, je veux que l'Église soit un, de la même manière. Il dit, je veux que vous soyez un, comme moi et mon Père, nous sommes un. Il l'a dit. Et on se dit, parfois, il se rend pas compte de la difficulté. Peut-être que Jésus et le Père, ils peuvent être un, mais pour que nous soyons un, il en veut beaucoup. Oui, mais justement, c'est ça. C'est dit, nous sommes l'un dans l'autre, ça veut dire qu'on cherche toujours l'intérêt de l'autre. Et lorsque chacun cherche, et dans un couple, si chacun cherche l'intérêt de l'autre, personne n'est oublié. Si le mari est dans la femme et la femme est dans le mari, vous allez avoir l'unité. Il n'y aura pas de place pour que les enfants y entrent entre les deux. Hein? Parce que eux, quand ils rentrent entre les deux, ils cherchent leurs intérêts là-dedans. Mais quand papa et maman sont l'un dans l'autre, l'enfant, il parle à l'un, il parle à l'autre, il sait que c'est pareil. Et dans une église, et dans les membres de l'église, ça doit être pareil. On cherche l'intérêt l'un de l'autre. Et puis la deuxième chose qu'il souligne, c'est le fait que nous avons un même Père. Les disciples ont demandé à Jésus, ils ont dit, mais quand on prie, qu'est-ce qu'on doit dire? Il dit, dites notre Père. Il n'a pas dit mon Père, parce que ça veut dire qu'il est à moi, moi j'ai accès spécial, je suis... Non, il dit notre Père, c'est-à-dire qu'il est Père de nous tous. Et s'il est notre Père, eh bien nous sommes tous frères et sœurs. Et donc, et comme Dieu est un Père idéal, eh bien, il ne fait pas de distinction. Il n'est pas comme Jacob qui a préféré Joseph aux autres. Hein? On a vécu ça assez. On en a vu assez. Il y en a qui sont des victimes de cela. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, Dieu aime tous de manière parfaite. Et donc, nous devons nous reconnaître. Hein? Je ne suis pas un préféré. C'est pas ma fonction qui montre que je suis préféré par rapport à un autre, parce que j'ai une fonction qui est plus voyante ou qui ça veut rien dire. Il dit moi, notre Père qui est aux cieux. Et puis en plus, il nous dit dans Romains 8, 15, il nous dit que l'Esprit nous pousse à dire Abba, Père. L'Esprit nous encourage. Il va dans le même sens que la pensée du Père et de Jésus-Christ. Et puis il nous dit dans Galates 4, et au verset 6, il nous dit, l'Esprit en nous crie, Abba, Père. Donc le principe, c'est des personnes très variées, et personnellement, je pense que plus ils sont variés, mieux c'est. Parce que c'est comme ça qu'on démontre l'œuvre de Dieu. Hein? À moins qu'on ne puisse pas faire autrement, j'aime bien les églises multiethniques. Parce que ce n'est pas naturel. Et ça montre l'œuvre de Dieu. Et il nous dit, et qu'est-ce qui arrive? Il y a un sentiment où finalement, ce n'est pas d'où je viens, qui je suis, combien de temps je suis là, c'est le fait que Dieu est mon Père. Et c'est ça qui nous préoccupe. Et on a le mot l'amour fraternel, l'amour fraternel, philadelphos, hein, c'est le mot grec, mais c'est l'amour fraternel, l'amour qui existe entre des frères. Et donc cet amour-là doit exister dans l'Église. Il y a l'amour de Dieu, oui, qui se sacrifie, mais ensuite, et aussi dans l'Église, il y a l'amour philadelphos, c'est-à-dire l'amour fraternel, hein, c'est où on cherche le bien de l'autre. Il y a une histoire avec le voisin, on va le décourager, on va peut-être le défendre, mais quelqu'un touche mon frère ou ma sœur, alors le voisin il touche mon frère ou ma sœur, et je suis du côté de mon frère ou ma sœur. Pourquoi ? Il y a ce lien fraternel. Et dans l'Église de Jésus-Christ, eh bien, mon frère, c'est plus près que le cousin. Hein, comme ils disent, moi et mon cousin contre l'étranger, mais moi et mon frère contre le cousin. Hein, c'est ça qu'ils disent dans certains milieux. Mais c'est... Donc dans une église, si on a cette attitude où nous sommes frères et sœurs et nous cherchons le bien l'un de l'autre, bien on n'est pas là pour casser, on est là pour encourager. passe par un moment difficile, je le soutiens. Il passe par un moment où il a un problème avec son image personnelle, eh bien, j'essaie de le relever. Et surtout, quand il est par terre, ce n'est pas le moment de lui faire la morale. Hein? Une fois qu'il va bien, après, on lui dit, écoute, tu n'aurais pas dû grimper cet arbre-là. Mais ce n'est pas quand il est tombé de l'arbre, on dit, qu'est-ce que moi, je t'avais déjà dit de ne pas monter dans cet arbre, qu'est-ce que tu fais là? Non, non, d'abord tu l'emmènes à l'hôpital, quand il va bien, après tu lui dis, écoute, tu te souviens, je t'avais dit de ne pas monter dans cet arbre. Mais c'est ça, quand on aime. Et puis dans l'Église, eh bien, on se souvient que Jésus-Christ est Seigneur. De jamais oublier, c'est lui le Seigneur, ce n'est pas moi. Vous savez, le gros problème dans notre monde, c'est que tout le monde est chef, mais en fait, il n'y a que Jésus-Christ qui est le Seigneur. Seigneur dans ma vie, Seigneur dans mon foyer, Seigneur dans l'Église, et éventuellement, il sera Seigneur dans le monde, hein, il va s'imposer. Hein. Un jour, tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens chapitre 2. Alors, vous allez comprendre maintenant ce que je vais dire, je le lis là, il dit « Dieu est peut-être le Dieu de beaucoup de gens, mais il n'est le Père que de ceux qui ont placé leur foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ. » Beaucoup de gens peuvent dire « Moi, Dieu, je crois en Dieu. » Mais est-ce qu'il est ton Père? Et s'il est ton Père, alors tu es son Fils. Et donc, il y a un engagement, il y a une responsabilité. Il y en a qui disent, mais moi, je crois en Dieu. Non, c'est bien, le diable aussi, il croit. Mais ce n'est pas pour ça qu'il le suit. Hein? Donc, beaucoup de gens peuvent dire qu'ils connaissent Dieu, mais est-ce qu'il est ton Père, hein, dans ta vie? Et je sais, je comprends que parfois, cette image de père, ça peut, surtout si on a eu une expérience où le père n'a pas été un père, alors l'expression père, ça nous froisse, mais la faute n'est pas dans le fait que Dieu est le père, la faute c'est dans le père qui ne s'est pas comporté comme un père. Hein? Tandis que la pensée de Dieu, la position de père, c'est cette belle position que Dieu veut avoir. Donc il est peut-être, il va pas être père tel que mon père a été, mais il veut être père tel que les pères doivent l'être. Hein, c'est le modèle parfait. Et puis, Jésus, bien sûr, c'est cette deuxième phrase, Jésus-Christ se veut le sauveur de beaucoup, mais il n'est réellement le sauveur que de ceux qui se sont confiés à lui. Vous avez sur la plage, vous avez un maître nageur. Le maître nageur, il est là pour tous. Mais il n'a vraiment rempli sa fonction que pour ceux qui ont commencé à se noyer et qui les a sortis. Hein? Jésus est le sauveur de tous les hommes, mais en fait, il ne sauve que ceux qui font appel à lui pour qu'il les délivre de leurs péchés et de la condamnation. Alors, ici, l'apôtre Paul, aux Thessaloniciens, il dit « L'Église qui est en Dieu et en Jésus-Christ. » C'est-à-dire que toute l'Église, hein, il n'a pas dit ceux de l'Église qui sont en Jésus-Christ, il dit l'Église qui est en Jésus-Christ. Donc la volonté, c'est que toute l'Église soit en Jésus-Christ, que tous appartiennent à Jésus-Christ, qu'il soit le Seigneur et Sauveur de tous. Et nous voulons déjà se faire une juste idée de ce que Dieu désire, ce qu'il veut, et ensuite, et moi, quand plus je comprends cela, plus je dis qu'il a voulu une belle chose, et donc c'est à nous de le rechercher et de le désirer, et que cette Église se crée au vu de tous, et que quiconque vient, quiconque voit l'Église de Jésus-Christ, eh bien, puisse admirer l'œuvre de Dieu et non pas un problème humain. Alors que Dieu nous aide à être, comment devenir membre de l'Église de Christ? Ce n'est pas par une signature, mais c'est en venant à Dieu, en disant: Dieu, je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je veux que tu me pardonnes. Je veux te suivre. Je veux que tu deviennes le Seigneur de ma vie. Et c'est par ce moyen-là, j'exprime de manière tout simplement mon désir de le suivre. Et je me donne à lui. C'est pas que je lui demande de me faire des choses, mais moi, je me donne à lui. Et c'est là où je rentre dans l'Église de Jésus-Christ. Et ensuite, je cherche une communauté de frères et sœurs qui désirent cela. Prions.